La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Cet appel sur l'actualité, votre émission pour savoir et comprendre le monde. Nous répondons chaque jour aux questions que vous vous posez sur l'actualité et vous débattez aussi. Dans une demi-heure, nous parlerons du G7. Les grandes puissances se réunissent ce week-end en France. Les pays en développement, eux, ne seront représentés qu'à la marge, bien que concernés au premier chef par le thème officiel de ce sommet, la lutte contre les inégalités. Du coup, nous vous proposons de prendre la parole, de faire une sorte de contre-sommet dans la deuxième partie de l'émission. Répartition des richesses, environnement, migration, éducation, fiscalité, sécurité. Nous attendons vos propositions, vos solutions pour lutter véritablement contre les inégalités entre les nations et entre les continents. Vos réactions par téléphone 33 9 693 693 70. Vos messages WhatsApp 33 6 89 28 53 64. Et sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, comme chaque jour, la rédaction de RFI et nos experts se mobilisent pour répondre à vos questions. Soudan, Rwanda, Nigeria, on va beaucoup parler d'Afrique, mais on met d'abord le cap sur le nord pour évoquer le Groenland. Bonjour Silver.
Bonjour François, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous écoutez à Lomé, au Togo, et vous avez des questions sur cette immense île entre l'Arctique et l'Atlantique. Nous vous écoutons.
Tout à fait François. Donald Trump a annoncé réfléchir à acheter le Groenland au Danemark. Du coup, j'aimerais savoir, François, comment expliquer cette annonce inattendue de Donald Trump ? Et acheter le Groenland serait-il possible dans la mesure où le territoire relève du Danemark ?
Eh bien, on va le demander à Mika Mered. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géopolitique à l'Institut libre d'études des relations internationales et spécialiste des zones polaires. Alors à première vue, ça peut s'apparenter à une sortie un peu loufoque, une parole en l'air, un peu à la manière de Donald Trump, hein, sauf que c'est une proposition très sérieuse, Mika Mered, et même très réfléchie de la part des Américains. Dites-nous pourquoi.
Alors oui, c'est très réfléchi de la part des Américains. Ça rentre dans le cadre d'une nouvelle stratégie pour l'Arctique qui est portée par les États-Unis depuis déjà plusieurs mois, depuis 18 mois environ, et qui a fait l'objet de plusieurs publications stratégiques ces derniers mois de la part du ministère de la Défense, de la Marine et d'autres. Et ce qui se passe en réalité, c'est que les États-Unis ont besoin de reprendre la main sur l'agenda et sur le discours politique en Arctique, puisque les États-Unis sont en fait, suite à un désengagement ces 10 à 15 dernières années, en particulier au Groenland, eh bien aujourd'hui ils sont à la traîne, on peut le dire ainsi, par rapport à la Russie, première puissance dans la région, mais aussi par rapport à la Chine, qui a utilisé ce vide stratégique, ce désengagement des États-Unis en Arctique et en particulier au Groenland, pour y prendre pied, pour y prendre des positions stratégiques. Donc Donald Trump aujourd'hui essaye d'inverser la tendance.
En gros, les Américains ont beaucoup regardé vers l'ouest, vers le Pacifique, mais pas assez vers le nord.
Tout à fait. Les États-Unis redécouvrent aujourd'hui qu'ils ont une frontière nord, c'est-à-dire que chacun sait qu'ils détiennent l'Alaska. L'Alaska est un État américain. Et au-delà de l'Alaska, les États-Unis ont une difficulté aujourd'hui, c'est exercer son influence, leur influence, sur l'ensemble de la zone. La Russie est le plus grand pays de la zone, évidemment. Le deuxième plus grand pays de la zone, c'est le Canada, mais le Canada a moins d'influence. Et les États-Unis, devant l'attrait des Russes pour l'Arctique qui est naturel et l'attrait des Chinois qui est moins naturel et qui est très important, essaye tout simplement de revenir dans le jeu. Et Donald Trump, à travers ce cas d'acheter le Groenland, essaye tout simplement de montrer aussi bien à l'international que les États-Unis sont une grande puissance arctique avec laquelle il faut compter, mais aussi il essaye de parler à son électorat au sein des États-Unis pour leur montrer qu'il est un dealmaker, quelqu'un qui peut concourir au développement de la nation, même si c'est à travers une politique impérialiste.
Alors Donald Trump a parlé de son offre comme d'une grosse transaction immobilière, ce qui a dû beaucoup plaire aux 56 000 habitants du territoire groenlandais. On comprend bien, Mika Mered, que cette vente est hautement improbable, mais théoriquement, est-elle possible et comment cela fonctionnerait-il ?
Alors, en théorie, elle est possible. Évidemment, on n'est plus au 18e, au 19e siècle. Mais ceci dit, il n'y a rien aujourd'hui dans le droit international, il y a même une jurisprudence qui va dans ce sens, il n'y a rien qui empêche un transfert de territoire d'un pays à un autre à partir du moment où, dans les deux pays, il y a un consentement démocratique, un consentement des peuples. Donc, dans le cas du Groenland, vous l'avez dit, le Groenland, notre auditeur l'a dit aussi, le Groenland appartient au Danemark encore, c'est un territoire semi-autonome du Danemark, avec son propre gouvernement, son propre parlement, mais qu'il appartient encore au Danemark. Et du coup, il y a deux possibilités. Soit le Groenland déclare son indépendance, ce qu'il peut faire à tout moment, et décider de se vendre quasiment immédiatement aux États-Unis. Soit, deuxième solution, les États-Unis négocient avec le Danemark, puisque du coup, c'est au Danemark que revient la compétence politique étrangère et souveraineté. Donc du coup, dans tous les cas, il faudra un consentement démocratique, et c'est là que aussi les choses vont pêcher, puisque au Groenland, on ne veut pas passer d'une tutelle danoise à une autre tutelle, qu'elle soit américaine, chinoise ou autre. Au niveau du Danemark, on ne veut pas perdre le Groenland, parce que c'est grâce au Groenland que le Danemark est un pays arctique. Et puis même côté américain, il faudrait l'aval du Sénat et de la Chambre des représentants. Or, aujourd'hui, Trump ne peut pas compter sur l'aval du Congrès dans ce dossier-là.
Voilà, merci Mika Meret d'avoir été en ligne avec nous et merci à Silver, notre auditeur de Lomé à Nuuk, la capitale du Groenland. Il est 6h17, 10h17 à Khartoum et à Paris, RFI, effectivement, c'est la radio du monde. On parcourt ces 10 000 kilomètres pour parler du Soudan maintenant. Ouda Ibrahim, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre en studio pour répondre aux questions que se pose Alphonse à Abidjan. Bonjour Alphonse.
Et bonjour François, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Soyez le bienvenu Alphonse, quelles sont vos questions pour Ouda?
Le Conseil souverain vient d'être formé. Quelle est la composition de ce Conseil et comment va-t-il fonctionner?
Alors Ouda, les discussions ont pris du retard sur le planning annoncé, mais finalement depuis hier soir, ça y est, on a les 11 noms du Conseil souverain chargé de mener la transition au Soudan pendant ces 3 ans et 3 mois. Alors qui sont les personnalités présentes au sein de ce Conseil et quels vont être ses pouvoirs?
Alors d'abord, ce Conseil, c'est lui qui va gérer le pays durant 36 mois à partir d'aujourd'hui. Il va jouer le rôle d'un président. Comme tout le monde sait, ce Conseil est composé de 6 civils et de 5 militaires. Les civils sont peu connus. L'opposition a essayé durant la formation de la liste de 5 civils de ne pas choisir de noms qui divisent les forces regroupées au sein de la Coalition pour la Liberté et le Changement. Donc pas de nom de leader de grands partis politiques, pas de leader non plus de l'association de professionnels qui a mené les protestations. Durant les discussions, on a même refusé deux noms jugés très âgés pour siéger au Conseil souverain. On le sait, la partie constitutionnelle de l'accord politique insiste sur la nécessité d'inclure les femmes et les jeunes dans les institutions du pays. Il y a eu donc une femme parmi les 5 civils, puis la 11e personnalité civile est finalement une femme, juriste et copte. Sa nomination marque le retour de copte soudanais à la politique après près de 50 ans d'absence.
Alors du côté des militaires, Ouda, c'est là que ça risque de poser problème.
C'est là où il y a un malaise qui reste palpable dans le camp des protestateurs malgré la formation du Conseil souverain, en raison notamment de l'omniprésence de Mohamed Hamdan Daglo Hamite, le chef de la redoutée force paramilitaire, accusé d'être impliqué dans la répression de la contestation. Pour rappel, les contestations ont fait plus de 250 morts. Les forces de Hamite sont accusées aussi des pires exactions commises au Darfour. Plusieurs autres généraux qui siègent dans le conseil militaire se retrouvent, ou qui siégeaient jusqu'à hier dans le conseil militaire, se retrouvent au conseil souverain dirigé par Abdel Fattah al-Burhan. Au Soudan, on protestait contre les généraux de Omar al-Bashir. Ces généraux au Conseil souverain sont des généraux de l'ancien régime. Au regard des protestataires, Hamiti est le plus mauvais parmi eux. C'est un criminel, toujours pour eux, qui pourrait tordre le cou de la révolution. Les civils et les militaires doivent maintenant travailler ensemble au sein de ce Conseil souverain et ça ne sera pas facile.
Alphonse, vous avez d'autres questions pour Ouda?
Effectivement, un gouvernement est maintenant attendu. Quand sait-on, sera-t-il vraiment indépendant des militaires?
Alors, on a le nom du Premier ministre, Ouda, mais pour sa composition, il va falloir attendre la fin du mois.
Effectivement, en plus de Abdallah Hamdouk, le Premier ministre qui est un expert économique, il y a des noms qui commencent à fuiter. Le plus important est que ce gouvernement sera un gouvernement d'experts qui se mettra rapidement au travail, car il y a tout à faire, tout à réformer après 30 ans du pouvoir des militaires.
Mais alors justement, comme le demande Alphonse, est-ce que ce gouvernement sera vraiment indépendant des militaires qui ont eu la main dans la transition post-Béchir?
Nous verrons bien. Je pense que ça ne sera pas une tâche facile pour Abdallah Hamdouk, qui a reconnu hier l'énorme défi qui l'attend pour redresser la situation dans le pays. Je crois que les militaires ont quand même tout intérêt à laisser le gouvernement d'experts faire son travail. Ils ont tout intérêt à ce que la situation économique du pays change.
Ce qui nous amène à la dernière question d'Alphonse. Allez-y.
Quelles seront les priorités des nouvelles autorités?
Oui, l'économie d'abord, on imagine, Ouda, puisque les protestations c'était contre l'inflation, on parlait du pain et de la liberté. Maintenant qu'Omar el-Béchir est tombé, il va falloir s'occuper du prix du pain.
Effectivement, l'économie, mais il y a une autre priorité aussi pressante que celle de l'économie, c'est installer la paix globale dans le pays. L'accord politique stipule que les accords de paix seront signés entre les mouvements armés et le gouvernement à Darfour, les six premiers à Darfour, au Nil Bleu et aux montagnes de Nouba, les six premiers mois de l'installation du gouvernement. En l'absence de ces accords de paix et de la fin de mouvements armés qui doivent être intégrés dans les forces armées et sécuritaires du pays, en l'absence d'aide et de développement urgent pour ces régions en marge et d'une solution pour des millions de déplacés à cause de ces guerres, il n'est pas possible d'accéder à un nouveau Soudan. Encore une fois, la présence du général Daglo au Conseil souverain gêne énormément le front révolutionnaire qui n'est pas signataire de l'accord et qui a demandé des garanties. Parallèlement, il faut s'occuper d'urgence de l'économie effondrée et de l'inflation énorme. Il faut réformer toutes les institutions. C'est un chantier grand comme le Soudan qu'il faut lancer et les défis sont grands.
Et défi que devra en premier lieu relever le général Al-Bourhan, qui prendra la tête du Conseil souverain d'ici normalement une demi-heure selon le programme officiel. Bien sûr, on en parlera dans les journaux de RFI. Merci Ouda Ibrahim d'être venu et merci à Alphonse, à Abidjan, direction Conakry. Bonjour Balafoya.
Bonjour François et bonjour à toute l'équipe de la RFI.
Vous posez des questions sur la controverse autour des chiffres de la pauvreté au Rwanda. Quelles sont-elles?
Tout à fait. L'État rwandais aurait manipulé les chiffres de la pauvreté selon le quotidien Financial Times. De quelles preuves dispose le quotidien pour parler de manipulation?
Alors on va rappeler les faits hein, déjà dans cette enquête. Le Financial Times parle d'une très probable manipulation des chiffres de la pauvreté. C'est vrai que le miracle économique rwandais a été plusieurs fois questionné par des universitaires, notamment en 2015. Et c'est précisément sur cette période allant de 2011 à 2014 que deux journalistes du Financial Times ont enquêté. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour François.
Vous avez lu le Financial Times pour vous, pour nous. Alors justement, quels sont les preuve du journal britannique pour parler de manipulation?
Alors peut-être juste pour préciser d'abord quels sont les chiffres officiels qui sont vraiment contestés, critiqués par cette enquête du Financial Times. Il faut dire que pour cette période que vous avez citée entre 2011 et 2014, l'Institut National des Statistiques du Rwanda indique que la pauvreté a baissé de 45% à 39%, donc si on arrondit les chiffres, donc environ baissé de 6 points. Or, pour le Financial Times, le taux de pauvreté n'a pas baissé de 6 points entre 2011 et 2014. Au contraire, il a très probablement augmenté. Pour répondre à la question de Balafoya, le Financial Times s'est basé sur des chiffres officiels rwandais. Les journalistes disent avoir analysé plus de 14 000 données officielles. Ils ont aussi consulté plusieurs scientifiques pour les aider à interpréter ces données. Leur travail s'est particulièrement concentré sur le calcul du taux d'inflation, c'est-à-dire sur l'évolution moyenne des prix. Des prix qui pèsent quand ils augmentent sur les ménages et qui ont une conséquence directe sur la pauvreté et ce taux de pauvreté dont on parle. Donc les graphiques à l'appui, les journalistes démontrent dans le journal que pour que le taux de pauvreté baisse de 6 points, comme le disent les officiels rwandais, il faudrait que cette inflation soit contenue en dessous de 4,7%. Or, pour le Financial Times, ce n'est pas plausible, quels que soient les calculs. Le journal, en effet, fait plusieurs calculs en prenant en compte soit les données du ministère de l'Agriculture rwandais, soit l'index des prix à la consommation, soit les prix cumulés des denrées alimentaires et non alimentaires, et en tournant les chiffres de toutes les manières possibles. À chaque fois, les conclusions sont différentes et jamais, surtout, le journal n'obtient un taux d'inflation qui mène au taux de pauvreté annoncé. Donc, selon les auteurs de l'enquête, les prix auraient augmenté, pour résumer, beaucoup plus que ne l'admet le Rwanda, notamment en zone rurale. Le journal s'appuie aussi sur des doutes émis par 5 employés de la Banque mondiale, qui est le plus gros donateur et partenaire du Rwanda.
Notre auditeur avait une autre question sur la réaction des autorités de Kigali.
Alors, les autorités ont rejeté les conclusions de cette enquête du Financial Times. Elles assurent que les progrès réalisés en matière de réduction de la pauvreté sont incontestables. Le directeur de l'Institut des statistiques assure que les calculs de son organisme sont évidemment exacts. La présidence rwandaise a aussi réagi sur Twitter. Si nous trafiquions des chiffres, on tricherait vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de personne d'autre. Nous ne cherchons pas à plaire ou à satisfaire ceux qui écrivent sur nous. Nous cherchons à être juste avec nous-mêmes. Voilà ce qu'on peut lire sur ce message du président rwandais.
En un mot, est-ce qu'il peut y avoir des répercussions économiques sur le Rwanda?
Alors, ce genre d'enquête écorne forcément l'image du Rwanda. Pour le Financial Times, elle jette même un doute sur la transparence des relations entre la Banque mondiale et le Rwanda. Après, pour parler de répercussions économiques concrètes, là c'est une affaire de spéculation. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que cette enquête du quotidien britannique va révolutionner l'approche des partenaires du Rwanda, parce que ce qui est dit ici, ces conclusions du journal étaient déjà connues, en tout cas depuis 2015.
Merci Marie-Pierre et merci Balafoya. Direction Tchang, dans l'ouest du Cameroun, c'est non loin de Bafoussam, je crois, et Victor nous attend. Bonjour.
Bonjour François Mazé, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Victor, vos questions sur une décision économique du président nigérian Muhammadu Buhari qui a interdit à la Banque centrale l'octroi de devises pour l'importation de denrées alimentaires afin d'encourager la production céréalière locale. Nous vous écoutons.
Justement François Mazé, le président nigérian a interdit à la Banque centrale nigérienne l'octroi de devises étrangères pour l'importation des produits alimentaires. Et ce, pour booster la production céréalière interne. Alors, une telle initiative n'a-t-elle pas de risque pour l'économie nigériane?
Bonjour Jean-Pierre Boris, on va vous le demander. Pardon Victor, je pensais que vous aviez fini, je vais relayer vos questions. Jean-Pierre Boris est avec nous. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour François, bonjour Victor.
Alors, l'objectif du président nigérian, c'est de soutenir son agriculture avec cette mesure. Est-ce que ça peut marcher Jean-Pierre, ou au contraire, est-ce que ça fait peser un risque sur le pays, comme nous le demande Victor?
Écoutez, il est assez facile de répondre que ça ne marche pas, parce que c'est une politique qui est déjà appliquée en fait par la Banque centrale, donc les déclarations du président Buhari, c'est de la pure politique. La Banque mondiale elle-même relève dans ses derniers commentaires sur la politique économique du Nigeria que la Banque centrale du Nigeria applique des restrictions de distribution de devises étrangères aux entreprises qui importent des produits alimentaires, et cela n'a pas d'impact. La Banque centrale ne se limite pas à cela. Par exemple, pour booster la production agricole du Nigeria, elle applique des taux d'intérêt préférentiels pour les entreprises, où elle demande aux banques prêteuses d'appliquer des taux préférentiels aux entreprises, par exemple, qui traitent le riz local, qui le raffine, qui en enlève les petites coquilles qui sont autour de la graine de riz pour qu'il soit comestible par les consommateurs nigérians. Et malgré tout ça, le Nigeria reste le premier importateur de riz en Afrique, le deuxième au monde après la Chine. Et c'est le riz, un des principaux aliments qui est concerné par ces questions d'importation.
Donc cette politique protectionniste, elle ne fonctionne pas et elle va à l'encontre de l'engagement dans la zone de libre-échange qu'a signé le Nigeria.
Alors ça se discute, parce que la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, c'est une zone à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il y a un accord de libre-échange entre tous les pays africains, mais quand on importe, par exemple...
Jean-Pierre, oui. Il y a le journal, je suis obligé de vous couper, mais on va reprendre après le journal, vous allez rester avec nous pour bien répondre à Victor et pour nous expliquer davantage les conséquences avec la ZLEC.
À tout à l'heure.